J'ai-tu mis assez de légumes dans leur lunch? Oh my God, faut pas que j'oublie les inscriptions parascolaires. Mental note, sortir le poulet du congé pour souper.
Est-ce que tu te sens dépassé par toutes les décisions à prendre dans une journée? Je te comprends. Je suis moi-même maman de deux jeunes cocos de 3 et 4 ans. Salut, je m'appelle Eve. Je suis coach certifiée en santé holistique pédiatrique. C'est après un diagnostic de maladie auto-immune à l'âge de 30 ans que je me suis juré que j'allais tout faire pour pas que mes futurs enfants se retrouvent dans la même situation. Avec mon service de coaching, j'aide les mamans à se sentir outillées et confiantes de prendre des décisions éclairées pour la santé de leurs enfants. Je les accompagne dans la mise en place d'habitudes saines et durables pour supporter leur famille de façon naturelle. Dans le podcast, seul ou accompagné d'un invité, j'aborde des sujets variés dans le but de t'informer, te donner des trucs ou de vulgariser des informations pas toujours simples à comprendre. Mon but, c'est que chaque épisode te fasse réfléchir pour que tu puisses faire des petits pas sans passer des heures sur le sujet. Parce que tu sais, t'es maman, t'as pas besoin de t'en rajouter. Oublie pas de t'abonner pour pas manquer un épisode. Que tu sois en train de bien brasser de lavage, faire la vaisselle ou en chemin pour aller chercher les enfants en garderie, je te souhaite une bonne écoute. Avertissement. Ah oui, prends note aussi que mon podcast est conçu à des fins éducatives seulement et qu'il ne remplace en aucun cas les soins d'un professionnel de la santé. Il peut être basé sur des opinions, des lectures ou les conseils des invités, par exemple. Si tu as des inquiétudes par rapport à ta santé ou à celle de ton enfant, consulte ton médecin ou un professionnel de la santé qualifié. Salut à toi! Bienvenue sur le podcast Petit Pas Santé. C'est le bonus pour l'épisode 24 qui est sorti aujourd'hui. Cet épisode-là, c'est un épisode en anglais avec invité. J'avais envie de m'assurer que tous puissent l'écouter et en français si possible. Donc ici aujourd'hui, je vais relater notre conversation. Donc, il y a quelques jours, j'ai sorti un épisode sur l'autisme pour le mois de la sensibilisation à l'autisme. Puis, dans l'épisode 24, je reçois Darylyn Lewis, une de mes collègues américaines, pour venir nous parler de son expérience en tant que maman d'un enfant qui a été diagnostiqué autiste un peu avant l'âge de 3 ans. Darylyn est aussi une coach santé certifiée par Epidemic Answers, comme moi. Alors, c'est de là que je la connais parce qu'on échange tous les mois ensemble. Donc, comme je te dis, je vais vous relater la conversation qu'on a eue. Donc, on a commencé notre conversation par parler de où elle vient, ce qu'elle fait, comme à peu près tous les épisodes avec invités. Darylyn a été élevée en Alabama, de où vient son accent, son thick accent, comme on dit. Elle a été élevée à la campagne, sur une grande terre, ses oncles, ses tantes, toute la famille était autour, son grand-père. Elle disait que son grand-père faisait un grand jardin, il élevait ses poulets. Alors, comme elle dit, on mangeait healthy, the healthy stuff, the healthier stuff, donc des choses plus santé. Donc, ça venait de la terre, ça venait de leur jardin, c'était quand même de la nourriture fraîche, puis t'as quand même de la bonne nourriture pour la santé, qu'elle disait. Donc, elle a quitté la terre familiale pour aller étudier à l'extérieur, en informatique, puis c'est là qu'elle a rencontré son futur mari à l'université, puis après avoir gradué, lui, il était déjà parti, mais elle est allée le rejoindre en Europe. Ils ont passé 5-6 ans en Europe, en Belgique, si je me souviens bien, puis c'est là qu'elle a eu son premier enfant. Puis environ 2 mois après sa naissance, ils sont redéménagés aux États-Unis, au Minnesota. Puis, tout allait bien. Son enfant, en fait, a vécu la majorité de sa petite enfance au Minnesota. Mais c'est là que l'aventure, le journey, comme elle dit, commence. Quand il est né, tout était OK. Il est né d'une césarienne d'urgence parce qu'il était transverse. Quand ils sont arrivés aux États-Unis, ils ont trouvé un pédiatre. Il a commencé ses well check-up qui appellent là-bas. Donc, ses rencontres, ses visites régulières pour pour le check-up, là, pour les suivis chez le médecin. Ici au Québec, c'est un médecin de famille, t'as ça, mais moi, j'ai pas de médecin de famille, fait que j'ai pas eu ça. Donc, alors, j'ai demandé quand est-ce qu'elle avait commencé à soupçonner qu'il y avait un petit quelque chose qui clochait. Elle a dit que c'est entre 18 et 2 ans. Elle, personnellement, elle n'avait pas vraiment remarqué, mais l'éducatrice à la garderie lui avait dit qu'il avait commencé à vraiment avoir peur de la balayeuse. Puis avant, il n'avait pas peur de la balayeuse. Puis là, elle dit, il capote, il crie au meurtre, il est terrifié de la balayeuse. Puis au début, Darlene n'a pas vraiment fait cas, elle n'a pas remarqué à la maison, mais elle s'est dit, bon, ben, c'est probablement parce que je passais pas la balayeuse en sa présence. Mais ensuite, il y a certaines petites choses qui se sont mises à s'accumuler. Donc, les éducatrices lui disaient qu'il avait pas, son fils n'avait pas des belles journées, il était pas mal toujours malade, il tirait sur ses oreilles tout le temps. Donc, c'est à partir de ce moment-là, comme elle dit, qu'il était toujours malade. Donc, il y avait beaucoup d'infections aux oreilles. Il était sur les antibiotiques back-to-back, beaucoup de fois en ligne. Dans le fond, il prenait un antibiotique qui l'aidait pas, fait qu'il changeait pour un autre. Puis, elle dit ça s'est poursuivi quand même pendant longtemps. Puis là, ils ont vu aussi des tonnes de différents spécialistes. Un ORL pour voir si son ouïe était OK, si avait besoin de tubes, etc. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est que l'éducatrice qui leur avait dit qu'il y avait peut-être un petit quelque chose qui clochait, elle partait. Puis là, il était rendu vers 2 ans et demi, puis il y avait des choses qui se passaient à la garderie qui n'avaient pas été partagées à Darlene et son mari. Des informations, selon Darlene, qui étaient importantes. Puis, ben c'est là qu'ils se sentaient moins à l'aise de laisser leur enfant là, donc ils ont décidé de le sortir de là. Puis comme elle dit, c'est évident qu'il y avait des difficultés, mais ils s'en sont pas vraiment rendus compte. T'sais, un parent qui a pas de comparatif, il n'y a pas d'autres enfants aussi, des fois c'est difficile de voir, puis aussi c'est difficile d'accepter qu'il y a peut-être quelque chose qui est off. Donc, ils ont changé de daycare, le preschool qu'ils appellent là-bas, qui sont c'est vraiment dans la petite enfance, puis ils sont tombés sur une éducatrice qui avait été dans une ancienne carrière pendant des années, une speech language pathologist. Puis ça, c'est comme un orthophoniste spécialiste des pathologies du développement du langage. Donc, cette personne-là, cette éducatrice-là, elle a passé une semaine avec lui, puis elle a levé le flag. Puis elle a dit que son développement n'était pas normal. Et elle a demandé s'il avait été évalué. Puis là, les parents, Darlene puis son mari, disaient, on était carrément perdus, on comprenait pas qu'est-ce qui se passait, pourquoi elle nous disait ça, pourquoi le faire évaluer. Puis j'ai demandé à ce moment-là s'il était dans le déni, puis elle dit, oui, j'étais comme agressive, protectrice, puis son mari a essayé de la calmer, puis elle s'est dit, bon, OK, on va aller le faire évaluer pour comme s'en débarrasser. C'est pour qu'elle arrête de m'écœurer avec ça à la garderie. Puis, à ce moment-là, c'est là qu'elle dit qu'elle a commencé à observer plus attentivement son enfant. La gardienne disait qu'il s'assoyait sur les côtés de la salle, il voulait pas jouer du tout, même si elle essayait de l'inclure au groupe. Donc, elle a dit à Darlene, viens le chercher plus tôt, puis assure-toi qu'il te voit pas pour que toi, tu puisses l'observer. Puis le daycare, la garderie, lui envoyait des photos, etc. Puis Darlene a dit, tu sais, je me sentais comme agressée, tu sais. Elle ne sentait pas tout à fait top avec ça, mais là, elle réalisait, tu sais, qu'il y avait les symptômes. Donc, elle a baissé les gardes, puis elle a vraiment vu qu'il y avait un délai. Il bavait encore, puis la fille, elle insistait. Fait que ils ont vu leur médecin. Puis le médecin a dit, ben tout est beau. Puis là, l'éducatrice était là, non, c'est pas typique, qu'est-ce qui se passe? C'est sûr que pas tout est beau. Puis l'éducatrice a dit, si vous avez un diagnostic, entre guillemets, on va être capable de vous donner des services. Si vous voulez faire une évaluation au school district, donc au centre des services scolaires, pour avoir des services, il faut vraiment l'aider. Tu sais, après coup, j'ai demandé à Darlene comment tu te sens par rapport à ça, puis elle dit, ben on l'a vraiment remercié, cette éducatrice-là, parce que c'est elle qui nous a poussé à aller plus loin, tu sais. Donc, fait que là, ils ont fait faire l'évaluation avec le school district, puis bon, ben ça, c'est des questionnaires de l'éducatrice, des parents, de l'intervenant du school district, pour pouvoir avoir des early intervention, tu sais. Puis finalement, ben, il était encore comme borderline. Il n'y avait pas de diagnostic. Fait que là, l'éducatrice a dit, OK, la prochaine étape, c'est d'aller voir un psychologue. Emmenez-le chez le psychologue. T'sais, on va voir et qu'est-ce que lui va dire. Parce que c'est vraiment important. T'sais, elle insistait sur le fait que plus c'était tôt, que c'était pris, mieux c'était pour toutes les thérapies du développement du langage, développement social et tout. On appelle ça les Early Intervention Program, donc le programme d'intervention précoce. Donc, finalement, le diagnostic est tombé. Le psychologue l'a diagnostiqué autiste. Bon, dans ce temps-là, c'était pas autiste. Ils l'ont diagnostiqué PDD-NOS, le TED-NS, comme je parle dans mon épisode sur l'autisme, donc le trouble envahissant du développement non spécifié. Avant, ça ne rentrait pas dans le spectre, mais maintenant, depuis 2013, selon le DSM-5, le journal diagnostique, comment qu'il appelle ça, donc? Le manuel diagnostique, ça fait partie du spectre. Donc, il était autiste. Il y avait donc finalement accès aux interventions, aux thérapies. Puis la psychologue lui a dit, reviens dans un an, on va refaire une évaluation. Puis Darlene a dit, je suis jamais retournée. Elle trouvait que tous les intervenants par rapport à où est-ce qu'elle était passée, il avait l'air de pas trop savoir quoi faire, comme s'il était perdu, comme s'il comprenait pas tout à fait la condition de son garçon. Puis c'est là qu'elle s'est dit, je vais prendre ça en charge. Je vais essayer de trouver là ce qui va réellement pas avec mon enfant, parce qu'elle se faisait dire que il y avait pas vraiment grand chose à faire à part les thérapies qu'il lui proposait. Donc elle a commencé à faire de la recherche en ligne. C'est quoi l'autisme? C'est quoi le TEDNS? Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis tout ce qu'elle lisait était négatif. Ça disait tout le temps qu'il n'y avait pas grand-chose que tu pouvais faire. Là, on retourne 10 ans en arrière, même 10-12 ans en arrière. Donc, les thérapies qui étaient proposées, c'est le ABA, le Applied Behavioral Analysis, donc l'analyse du comportement appliqué, si je le traduis mot à mot, là. Puis, elle ne voulait pas faire ça, elle trouvait que c'était très intensif, mais elle a beaucoup fait de speech therapy, donc d'orthophonie, dans le contexte de la garderie, parce qu'elle trouvait qu'il en avait besoin pour la communication. Et puis, c'est ça, elle a pas fait le ABA. Puis c'est là, en faisant sa recherche, qu'elle dit, c'est là que mon travail a vraiment commencé. Parce qu'elle elle cherchait des solutions partout. Puis aussi, elle avait pas réalisé certains symptômes qu'il y avait, qui étaient reliés ensemble. Donc, en plus de pas communiquer, pas socialiser vraiment, il dormait pas. Il faisait des crises, il se cognait la tête sur les murs. Donc, tout ça se passait pendant que l'éducatrice leur disait « Hey, il y a quelque chose ». Donc, finalement, elle s'est rendue compte que tout ça était relié. Puis, elle a décidé qu'il fallait qu'elle trouve quelqu'un, tu sais. Donc, là, je lui ai demandé si elle savait à ce moment-là si la nutrition pouvait avoir un lien avec les symptômes de son garçon. Puis elle a dit non. Puis il mangeait du McDo, du Wendy's, des chicken nuggets, là, des croquettes de poulet. Elle dit qu'il adorait le lait au chocolat. Il mangeait, en fait, ce qu'il était capable de mastiquer. Parce que, tu sais, il y avait de la misère avec le speech, tout ce qui était motor de son langage. Puis, il y avait de la difficulté à mastiquer. Donc, elle allait au drive-thru, à la commande à l'auto, puis elle cuisinait pratiquement pas. Puis, finalement, plus tard dans l'histoire, je vais raconter, mais c'est seulement plus tard qu'elle a découvert que c'était vraiment un méga contributeur pour les symptômes de son garçon. C'était pas la seule chose, mais c'était vraiment un gros morceau du casse-tête. Donc, pendant que tout ça se passait, puis qu'elle se faisait dire que ça allait pas, elle se disait, bon, à toutes les fois, je vais rencontrer un problème, je vais essayer de trouver une solution. Donc là, il socialisait pas. Fait que là, elle trimballait dans des play dates, dans des dates de jeu, là. T'sais, elle les amenait jouer chez les petits amis, au parc, pour le socialiser. Pour elle, la médecine conventionnelle donnait pas de vraies solutions. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'elle cherchait les solutions elle-même. Puis là, quand elle l'a amené vraiment à essayer de le faire socialiser, ben elle s'est rendue compte aussi que les éducatrices disaient vrai, que il se mettait dans son coin, puis il voulait pas socialiser. Donc, à travers tout ça, elle avait trouvé, il y avait pas autant de ressources en ligne que maintenant, mais elle avait trouvé un Dan Doctors. Dans ce temps-là, il appelait ça un Dan Doctors, c'est un Defeat Autism Now Doctor. Ça veut dire, combattre, défait l'autisme maintenant, Defeat Autism Now Doctor. Puis, il y en avait pas beaucoup de ces médecins-là dans ce temps-là. Là, ils ont changé de nom, je me rappelle pas exactement c'est quoi. Mais donc, c'était comme un regroupement de médecins qui s'était comme spécialisé là-dedans. Ils voyaient les autistes-là, mais ils voyaient aussi tout ce qui était TDAH ou conditions plus sévères aussi de troubles du développement. Donc, elle avait trouvé un médecin comme ça, environ 2h30 de route, puis elle s'est dit, bon, faut aller voir ce docteur-là. Elle a dit à son mari, on va voir ce docteur-là. Puis, ça a pris un bout avant d'avoir un rendez-vous. Il était quand même occupé. Donc, entre-temps, elle est retournée voir sa pédiatre encore une fois. Tu lui as dit, on peut pas faire grand-chose. C'est les thérapies que je vous propose. C'est tout. Donc, la psychologue lui a fait passer à son fils un IRM du cerveau pour voir si son cerveau était correct. Mais évidemment, tout est revenu correct. Puis c'est assez invasif parce qu'il a fallu qu'il le mette sous anesthésie générale. Quand il s'est réveillé, il était en crise. Le médecin a dit, bon, on peut l'envoyer aussi à la Mayo Clinic pour faire des tests génétiques. Bref, c'est ça. Donc, comme je dis, le IRM n'a pas été très, très cool. Puis, j'ai demandé si son pédiatre, un des spécialistes, encore une fois, a mentionné quelque chose à propos de l'alimentation. Puis, elle a dit, non, personne ne me parlait de ça, là. Sauf qu'il y avait seulement, quand elle était allée voir l'ORL, l'ORL avait dit, OK, pour essayer d'éviter une plus grande prise d'antibiotiques au niveau des infections des oreilles, mettons-lui des tubes dans les oreilles. Puis, ça, c'est arrivé avant le IRM du cerveau, puis c'était encore une anesthésie générale. Donc, finalement, son fils était quand même petit, puis elle a trouvé que c'était comme invasif de passer à travers tout ça. Puis, tu sais, son garçon souffrait, là. Il y avait des symptômes qui étaient, tu sais, il se cognait la tête de ses murs, il était agressif, aussi, il dormait pas. Fait que, c'est ça. Fait que finalement, ça l'a réglé un peu, mais il a quand même encore après ça pris des antibiotiques. Puis le médecin lui a dit, bon, ben là, ça se peut qu'on soit obligé d'en remettre d'autres parce qu'à un moment donné, ça tombe, ces tubes-là, ils ressortent à un certain âge. Puis là, Darren, elle a dit, non, là, ça suffit, on va essayer de trouver une autre solution que ça. Moi, je veux pas que, tu sais, qu'on fasse ça encore. Puis, elle se disait, il est petit, il a passé déjà à travers beaucoup de choses, fait que je veux plus le voir souffrir, comme je dis. Donc, ça a pris un petit bout de temps, justement, c'est tout ça qui s'est passé jusqu'à temps qu'il voit le fameux docteur qui appelle médecine alternative, le Dan Doctor. C'est quand même un docteur, mais il pratique différemment. Donc, elle me relate que elle se rappelle que tant ils sont allés, son garçon avait encore régressé. Il bavait comme s'il n'y avait pas de lendemain. Il était hyper agité. Il tenait pas en place. Il n'y avait pas de contrôle oromoteur, donc le langage. Il n'y avait rien qui se passait. Il avait 3 ans, puis il portait une bavette. Là, genre, ça coulait constamment la bave. Puis, une des premières choses que le docteur lui a dit, c'est ça. Il lui a dit, ben ça, la bave, baver comme ça à cet âge-là, c'est vraiment pas normal. Puis, tu sais, il a demandé combien de temps ça durait. Puis, elle a dit, je le sais même plus. On dirait que ça a jamais arrêté. Puis, comme elle disait, c'est supposé arrêter un jour, mais là, ça rempirait. Elle a dit, je pense que j'ai peut-être déjà envoyé enlever sa bavette à un certain moment donné. Puis, après ça, tu sais, il s'est mis à régresser. Donc, Darlene était découragée, évidemment. Puis, elle a demandé si il pouvait l'aider avec ça, puis avec tous les autres symptômes. La même question qu'elle avait posée encore et encore à son pédiatre et à d'autres intervenants, d'autres spécialistes. Puis là, il a répondu oui. Oui, je peux t'aider. Oui, je pense qu'on peut améliorer les choses, mais avant, j'ai besoin que vous arrêtiez de l'empoisonner. Puis là, elle dit, bon, il m'a pas dit ça comme ça, là, il a dit ça d'une façon un peu plus diplomate, mais c'était ça que ça voulait dire. Puis, parce qu'avant, il avait envoyé des documents, et puis il fallait qu'elle écrive qu'est-ce que son fils mangeait. Puis là, il a dit, avant de faire quoi que ce soit, il faut le stabiliser, puis il faut que vous changiez ça. Fait que là, elle comprenait pas trop qu'est-ce qu'il disait, parce qu'elle dit, ben là, il n'y a jamais personne qui m'a parlé d'alimentation. Pourquoi que ça a un rapport? Puis elle dit, comment ça c'est relié? Puis tu sais, elle était occupée à travailler à temps plein, à ramasser du take-out. Puis tu sais, elle s'est jamais posé la question là si ça pouvait avoir une instance. Comme beaucoup, beaucoup de parents aussi. Donc, le médecin lui a dit qu'il fallait qu'elle enlève le gluten et les produits laitiers le plus rapidement possible. Puis là, elle comprenait pas non plus. Donc, il lui a expliqué que ça créait beaucoup d'inflammation puis que selon les symptômes qu'elle lui disait, son enfant avait beaucoup de problèmes digestifs. Il a dit qu'il pouvait tester peut-être pour les intolérances s'il voulait, mais qu'il savait de toute façon « anyway ». Fait qu'il a dit, le premier pas, c'est vraiment, tu sais, enlève les gluten puis les produits laitiers. Puis là, ben elle, son premier petit pas, ça a été vraiment de tout changer à sans gluten. Donc, c'est les mêmes aliments. Donc, elle redonnait quand même des chicken nuggets puis de la pizza puis whatever, mais il n'y avait pas de gluten ou de produits laitiers. Elle dit, ça l'a aidé au début, mais son fils était très agressif envers elle parce qu'elle changeait ses habitudes. On sait que ces enfants-là ont souvent une rigidité alimentaire, une rigidité dans leurs habitudes. Donc, faire des changements comme ça, ça peut être très challengeant. Puis ça a été... Fait que là, elle a commencé, c'est ça. Elle dit... En fait, elle en donnait toutes les mêmes affaires sans gluten. Puis là, elle dit, ça a été pire quand on a rajouté, enlevé les produits laitiers. Au début, il dit, il a complètement flippé. Il se cognait la tête encore plus, il faisait des grosses crises, il frappait partout, il était comme en gros sevrage, là. Puis là, ben, elle dit, ben moi finalement, j'ai contacté le médecin, puis j'ai demandé, est-ce que c'est normal, là, tu sais, ça rend pire ces symptômes, puis lui, il a dit, oui, c'est normal, c'est vraiment comme une désintoxication d'une drogue, c'est un gros sevrage. Il a dit, you need to push through. Il faut que tu passes à travers cette crise-là, cette étape-là. Il faut que tu continues. Là, elle dit, c'était vraiment difficile. Elle n'avait pas de réseau. Elle vivait au Minnesota. Elle était loin de sa famille. Elle dit, je lisais des livres sur ça, tu sais, pour voir qu'est-ce qu'il fallait que je lui fasse manger. Et puis, je faisais tout toute seule. Puis, dans son temps, il n'y avait pas de coach santé comme elle et moi, par exemple, qui pouvait l'aider dans le processus ou rien de tout ça. Donc, il y avait quelqu'un à la garderie, elle disait, elle travaillait à la garderie, puis elle venait l'aider même la fin de semaine. Elle la payait pour qu'elle vienne aider la fin de semaine. Donc, la folie du gros sevrage a duré environ 2 semaines. Puis, ça a vraiment régressé, là. Il a perdu tous ses repères, sa communication est devenue pire, il parlait pas. Puis là, c'est comme sortie de son système qu'elle a commencé à avoir un changement. Il acceptait d'autres nourritures, il demandait plus autant le lait, puis il dormait la nuit, il se réveillait pas. Puis elle n'avait pas vécu ça depuis longtemps, un enfant qui dormait. Fait qu'elle dit, OK, il y a quelque chose, là. T'sais. Fait que c'est là qu'elle est partie dans une quête, qu'elle voyait que ça faisait une différence, fait qu'elle s'est mise à creuser. Puis elle s'est vraiment demandé pourquoi personne ne lui avait jamais parlé de ça avant. Puis c'est pour ça qu'elle aide les mamans dans ce processus maintenant, aujourd'hui. Elle dit toujours, tu sais, il faut que tu regardes ce que ton enfant mange. C'est la première étape. Là, après ça, bien, il y a d'autres choses qui se sont rajoutées. Le docteur lui a dit de rester le plus loin possible des antibiotiques pour pas endommager encore plus son système gastro-intestinal parce que tout ça est relié à son système gastro-intestinal. Puis là, après qu'elle a enlevé ça, elle a fait un test d'intolérance alimentaire, sachant très bien que ça allait revenir avec énormément de choses parce que quand ton système gastro-intestinal est endommagé comme ça, puis est inflammé comme ça, ça crée ce qu'on appelle un leaky gut. Donc, ton tube digestif, ton intestin devient poreux. Te laisse passer des particules de nourriture qui ne devraient pas passer dans le système sanguin et ça active ton système immunitaire. Puis c'est là que ça crée des problèmes. Moi, personnellement, je vais te dire une anecdote. Là, quand j'ai été diagnostiquée avec la maladie auto-immune, depuis 14 ans maintenant, la naturopathe, avant même que j'aie mon diagnostic, on avait, genre, dans les mois, les quelques mois juste avant le diagnostic, elle avait fait ça avec moi, un test d'intolérance alimentaire. Puis j'ai dit ça parce que ce sont pas exacts, ces tests-là. Tu sais, ça prend beaucoup de choses que peut-être que non, t'es pas vraiment intolérant. Fait que faut en prendre puis en laisser. Ça peut, des fois, en cas de crise, nous donner une réponse vraiment pour aider, comprimer certaines choses, mais c'est pas comme un test d'allergie. Les tests d'intolérance, c'est pas la panacée, là, pas du tout. Moi, quand c'était revenu, évidemment, j'avais un gros leaky gut, beaucoup d'inflammation, puis je pouvais plus manger rien de ce que je mangeais avant. Parce que mon système immunitaire les reconnaissait maintenant comme « ouh, tu sais, un aliment inflammatoire ». Puis évidemment, une fois que ton système gastro-intestinal, que ta paroi est guérie, ces aliments-là, tu peux les réintroduire. Donc, comme Darlin disait, c'est pas toujours nécessaire de tester, les tests sont pas toujours exacts, comme je t'explique. Puis, mais à ce moment-là, comme elle a dit au médecin, elle a dit « moi, je voulais voir le résultat sur le bout de papier. » Elle voulait, tu sais, vraiment être convaincue par ça, tu sais. Donc, elle lisait sur ça, sur la santé gastro-intestinale, sur la surutilisation des antibiotiques. Puis, on s'entend que ça, c'était il y a 13 ans, là. Ça pullulait pas autant que maintenant sur les réseaux sociaux, les informations ou sur Internet. Donc, ce médecin-là l'a propulsé vers le monde de la guérison, du healing, qu'elle dit. C'est là qu'elle a pu, après, tu sais, comme je disais, après cette régression de 2 semaines, d'avoir une lumière au bout du tunnel. C'est là que le vent a vraiment commencé à tourner pour eux autres. Puis tu sais, elle dit, je sais pas pourquoi, mais personne m'en a parlé, puis j'ai dit, mais parce qu'ils savent pas. Il y a beaucoup de médecins qui ne se posent pas ces questions-là et qui ne le savent pas que ça peut avoir une incidence. C'est pas leur faute. Ils n'ont pas appris ça. Surtout par rapport à l'autisme. C'est en évolution. Là, on en découvre de plus en plus par rapport à ça. C'est une condition, c'est un spectre qui peut être très différent d'une personne à l'autre. Ceci dit, pour elle, c'était l'alimentation. Pour d'autres personnes, ça va être différent. Mais l'alimentation, selon elle, c'est la base. Donc, elle dit qu'elle pense qu'elle a fait le U-turn, donc le au bon moment, puis que si elle avait continué sur la route conventionnelle avec les antibiotiques, les stéroïdes et tout, qu'elle aurait vu son enfant continuer à se détériorer. Ça, c'est qu'est-ce qu'elle dit, c'est peut-être pas qu'est-ce qui serait arrivé, mais elle dit son corps nous le disait qu'il était plus capable de supporter tout ça. Donc, pis c'est ça, elle dit que c'est la réalisation que je fais en regardant tout, tu sais, après, tous les documents médicaux, tout ce qui s'est arrivé, là, sa charge totale était beaucoup trop élevée. Là. Ses petits soldats dans son corps, ils ne savaient plus où donner de la tête. Le verre débordait bien raide. Donc, puis, c'est rarement juste une chose. Hein? Comme je dis tout le temps, la santé ou la maladie, c'est un ensemble de choses. Donc, je lui ai demandé s'il y avait d'autres gros facteurs qui étaient contributeurs. Donc, la deuxième chose que son médecin lui a dit, c'est rester loin aussi des médicaments en vente libre, des médicaments de prescription, donc lui des antibiotiques, mais aussi de l'acétaminophène. Parce que, comme elle dit, on se fait dire qu'ils sont sécuritaires. Par contre, il y a des études qui démontrent que c'est peut-être pas le cas parce que l'acétaminophène t'enlève tes stocks, te détruit tes stocks de glutathione. Puis glutathione, c'est un des antioxydants le plus important dans ton corps. Donc, c'est important aussi de faire attention à ça. Donc, je te donne pas des conseils. Va voir ton médecin, là, quand je dis, ça remplace pas les conseils d'un médecin. Donc, elle a aussi arrêté de vacciner. Si t'as écouté mon épisode précédent, j'ai pas parlé de vaccination à ce moment-là, mais il y a beaucoup d'enfants sur le spectre qui ont de la difficulté à détoxifier les métaux lourds et autres toxines. Donc, pour elle, et ce que le médecin lui disait aussi, ça faisait du sens d'arrêter. Ça fait du sens pour plusieurs enfants, dont les enfants sont sur le spectre aussi, justement, parce que ce qu'on voit dans certains cas, c'est que les symptômes apparaissent suite au vaccin. C'est comme l'élément qui fait déborder le verre. Le vaccin cause pas l'autisme, là, on s'entend, mais s'il y a une trop grande charge totale due à plein d'autres choses, ça peut, chez certains enfants, faire déborder le verre. L'autre chose, restant loin des aliments, tout ce qui sont shootés aux pesticides, là, asperges aux pesticides, le glyphosate et tout. Puis comme elle dit, tu sais, elle est allée vraiment un petit pas à la fois, là. Tu sais, elle a pas tout fait ça en même temps, là. C'était une étape, puis une autre étape. Tu sais, la fondation a été mise avec l'alimentation, puis ensuite, elle a construit là-dessus un petit pas à la fois. Un autre gros facteur qui a été pour eux, c'est les champs électromagnétiques. En fait, le premier médecin qui lui avait dit d'arrêter d'empoisonner son garçon, lui a dit, bon, on est comme arrivé au bout du chemin ensemble, je vais te transférer à un autre qui peut t'aider encore plus, tu sais, qui peut aller te pousser un petit peu plus loin dans ton cheminement. Donc, cet autre médecin-là lui a dit, là, il faut absolument, absolument que tu fasses évaluer, mesurer les champs électriques, les champs électrostatiques, électromagnétiques dans ta maison. Puis, fait qu'il a dit, c'est vraiment, vraiment pressant que tu mesures ça dans ta maison. Donc, il a fait venir un spécialiste. Et comme de fait, les niveaux de radiation étaient vraiment hauts et son garçon réagissait à ça. Puis là, elle louait une maison, elle n'avait pas vraiment le contrôle là-dessus. Ça a pris un bout avant qu'il sorte de là. Fait que elle dit, on fermait des breakers dans la maison. T'sais, on faisait ce qu'on pouvait avant que tout le monde pouvait se coucher. Puis elle dit, on se couchait tous dans la même chambre. Elle dit, dans ma chambre. Puis on avait découvert aussi que dans la fenêtre, les radiations des lumières extérieures créaient des champs très élevés aussi à l'extérieur de la chambre, justement où son fils dormait. Puis, entre-temps, elle avait eu un autre fils, je vais y revenir. Puis, ben, finalement, ils ont dormi pendant jusqu'à temps qu'ils sortent de cette maison-là et qu'ils déménagent finalement, redéménagent au Texas. Ben, ils dormaient tous dans la même chambre, puis elle fermait les breakers, elle s'arrangeait vraiment pour qu'ils soient le moins exposés possible aux champs électromagnétiques ou aux champs électriques, toutes les radiations qui peuvent émaner de ça. Donc, entre-temps, comme je disais, j'ai demandé, entre-temps, t'as eu un autre garçon? C'est quoi l'histoire? Donc, elle me dit, oui, j'ai eu un autre garçon. Par contre, j'ai vraiment hésité. J'étais pas certaine avec ce qui se passait avec le premier. Je voulais être sûre que tout allait bien avec le premier avant de tomber enceinte. Elle voulait s'assurer qu'il est mieux. Puis ça, c'était arrivé environ quand son plus vieux, finalement, avait environ l'âge de 4 ans. Puis, elle a eu son deuxième garçon avant 5 ans. Mais avant d'avoir son garçon, elle est allée voir son autre docteur. Puis là, j'ai pas continué de dire les interventions. Ah oui, le docteur qui était focus sur les IMF, sur les champs électromagnétiques, lui prescrivait aussi des injections de B12. Si t'as écouté l'épisode précédent sur le tissu, je parlais du défaut du gène MTHFR, de la méthylation. Donc ça, c'est souvent la raison de ces injections-là. Donc bref, petit à petit, la bouffe, les toxines et tout. Puis là, ben son fils allait mieux. Puis c'est pour ça qu'elle a décidé qu'elle allait avoir un deuxième enfant. Mais avant ça, elle a décidé d'aller consulter le premier médecin là, qui lui avait dit de pas empoisonner d'arrêter d'empoisonner son garçon pour voir ce qu'elle pouvait faire. Donc, elle savait que c'était mieux qu'elle ait une grossesse, un accouchement naturel, évidemment, avec allaitement. Et elle savait aussi maintenant comment bien manger. Fait que tout ça, elle était rassurée. Puis, évidemment, la première césarienne, c'était une césarienne d'urgence. Là, elle ne pouvait pas contrôler ça, mais elle voulait pas aller en césarienne parce qu'elle avait pas eu naturel au premier, mais c'est quoi en français? C'est le AVAC. Fait qu'elle a fait un AVAC, finalement. Elle a eu naturellement, tout s'est bien placé. Mais avant de tomber enceinte, le premier médecin, qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est Il l'a regardé dans sa bouche et lui a dit « Tu as plein d'amalgames dans ta bouche. » Donc, des amalgames, c'est des plombages. Donc, il lui a dit « Avant de tomber enceinte, tu dois enlever tout ça. » Pour que tu comprennes bien, dans les amalgames dentaires gris, moi, j'ai fait enlever mon dernier, l'année dernière, l'autre année d'avant, il y a eu du mercure. Puis le mercure est une neurotoxine, donc il a dit c'est vraiment important. Donc est allé se faire enlever tout ça, puis ça c'est vraiment un processus. Il faut vraiment que ça soit un spécialiste qui sait qu'est-ce qu'il fait, justement pour pas qu'il y ait personne qui respire ça. Là, c'est vraiment ils sont quasiment bien en saut d'astronaute. Là, t'as l'oxygène, les dentistes ont l'oxygène. On s'assure que tu t'as pas ça dans ta bouche, t'as pas ça dans tes voies respiratoires parce que c'est hautement toxique. Donc les dentistes fonctionnels peuvent faire ça. Nous aussi, ou des dentistes holistiques qui appellent. Nous aussi, on en a une à Sherbrooke. Donc, c'est ça. Donc, elle a fait tout enlever, excepté un, parce qu'elle avait des broches. Elle n'était pas capable de l'atteindre. Fait qu'elle est retournée voir le médecin. Le médecin a dit, OK, tout est beau. Mais une fois, fais pas enlever ça quand tu es enceinte ou pendant que tu allaites. Attends que tu aies fini d'arrêter. Puis, tout ça, puis ben après ça, tu pourras faire enlever le dernier. Fait que là, il a fait aussi optimiser sa diète, encore plus, supplémenter en vitamine D, en folate. Donc, tout ça pour donner des hautes doses d'huile de poisson. Donc, il a dit, on va construire ton système, puis là, ben, tu pourras avoir ton deuxième bébé. Puis, effectivement, elle a eu son deuxième bébé. Son deuxième enfant a dit, une seule infection aux oreilles. Elle savait quoi faire avec lui. Elle faisait très attention avec son microbiote intestinal. Les virus passaient rapidement. Elle dit, j'avais pas besoin de me rendre à l'urgence parce qu'il faisait de la fièvre puis c'était épouvantable. Et c'est pas arrivé avec son deuxième. Elle dit toujours maintenant à son plus vieux qu'il a sauvé son deuxième parce qu'elle a été capable de vraiment comprendre qu'est-ce qui avait des impacts. Elle dit, en plus d'aider ton frère, tu aides beaucoup d'autres personnes parce que elle fait beaucoup de sensibilisation sur les réseaux à propos de ça. Donc, là, j'ai demandé, je dis, puis, t'sais, ton deuxième est comment? Ben, t'sais, il mange bien, il est pas intéressé à la junk que je donnais au premier parce que j'ai jamais été en contact. Donc, la famille, après ça, finit par déménager à San Antonio, au Texas. Puis là, j'ai demandé, puis comment ton fils, le support à l'école, qu'est-ce qu'il avait? Donc, évidemment, les thérapies se sont poursuivies. Quand il était au Minnesota, il y avait une aide à l'école, au preschool, pour s'assurer qu'il comprenait tout, pour le supporter. Puis, ben après ça, quand ils sont déménagés au Texas, ils ont refusé de lui donner de l'aide en classe parce qu'il n'avait plus les symptômes qu'il avait avant. Par contre, ils ont continué l'orthophonie pour aider à mieux développer son langage, puis il y avait des délais, puis aussi rattraper ces délais-là. Puis il y avait aussi de l'ergothérapie au début, là, quand ils sont arrivés, pour aussi terminer tous les apprentissages. Puis là, elle dit, tu sais, on n'en avait pas vraiment besoin, puis nous, comme parents, on utilisait comme toutes les interventions, comme béquilles. Et elle dit, on voulait pas que notre enfant dérape, puis tu sais, on voulait qu'il ait tout le support qu'il avait besoin, mais finalement, elle dit, on a fini par comprendre qu'il en avait pas besoin, vraiment besoin, tu sais, on lui donnait comme, il se sentait plus en sécurité, puis ils ont décidé qu'il allait le laisser aller, puis qu'il pouvait s'épanouir sans, puis c'est ça qui s'est passé. Puis il était content, lui, de gagner en autonomie. Il était vraiment déçu pour les orthophonistes parce qu'elle dit en joke, tu sais, il aimait ça aller parler aux madames en orthophonie. Donc finalement, il y a encore du IEP qui appelle, il est rendu à 14 ans. Le IEP, c'est les plans d'intervention, là, à l'école. Je pense pas que c'est exactement la même affaire. Mais maintenant, il s'assoit dans les réunions de plans d'intervention. Il décide avec eux c'est quoi le support dont il a besoin. Puis c'est ça. Puis là, ils ont refusé aussi parce qu'ils voulaient encore lui donner de l'aide. Elle dit, moi, je veux pas que vous le traitez autrement. Parce que dans le IEP, dans le plan d'intervention, c'était comme il donnait des chances, tu sais, par rapport à son écriture ou son spelling, là, son... comment on dit spelling en français? Je me rappelle plus. Bon, fait que finalement, Ils ont dit, non, on veut pas que vous traitez différemment. S'il est capable de le faire, il est capable d'être évalué comme les autres. Donc, on continue comme ça. Puis, en ce moment, tout va bien à ce niveau-là. Et, il fonctionne pratiquement comme un enfant neurotypique. Puis, comme elle disait, elle dit, moi, j'ai toujours dit à mon fils qu'il était capable comme les autres. Elle dit, bon, ben, il y a des gens qui vont dire, oh non, t'sais, ils sont pas d'accord. Mais elle dit, moi, je savais d'où est-ce qu'il venait, d'où est-ce qu'il avait traversé comme étape là, pour passer à travers tout ça. Ça n'a pas été facile. Puis elle dit, peu importe ce que les autres pensent, elle pense que de l'avoir traité comme égal, ça l'a vraiment aidé son fils, pas égal, mais comme en lui disant que, bon, elle disait pas, ben là, t'es autiste, tu peux pas faire ça, t'es sur le spectre, tu peux pas faire ça, ou tu sais, quoi que ce soit. Non, elle a tout le temps dit qu'il avait les capacités. Elle ne voulait pas mettre une étiquette, hein, c'est ça, elle dit le mot étiquette. Puis, ben, les choses sont vraiment très, très différentes, là. Puis elle dit, j'ai des frissons en pensant à ce à quoi il est passé. Excusez, j'ai la misère à m'exprimer, on dirait. Puis, c'est ça. Puis comme elle dit là, ça, c'est toutes les grandes lignes, tu sais, il y a plein d'affaires qui se sont, tu sais, qu'il y avait des... Elle dit ça, c'est juste des bribes de l'histoire, des défis, d'innombrables défis qu'ils ont rencontrés. Puis elle dit maintenant que son plus vieux, vraiment un modèle pour son petit frère, puis son petit frère l'a aidé beaucoup aussi dans son développement. Quand il est arrivé, il a aidé son grand frère dans son développement, parce qu'ils ont développé comme une relation, elle dit, ils ont une très belle relation, évidemment, il y a des chicanes. Mais elle est très contente d'avoir décidé d'en avoir un deuxième. Puis là, j'ai demandé, maintenant que vous êtes passé à travers tout ça, que ton fils va bien, est-ce que vous êtes resté dans la rigidité? Est-ce que c'est encore hyper rigide, la diète à la maison, tu sais, sans gluten, sans produits laitiers? Évidemment, le gluten, produits laitiers, n'a pas de retour en arrière pour eux. Mais elle dit, parfois, tu sais, je lui ai demandé, est-ce que vous donnez du sucre une fois de temps en temps? Non, tu sais. Puis elle dit, ben moi, je donne de la nourriture pour qu'il s'épanouisse, pour qu'il soit en santé. Donc, elle dit, mon deuxième, comme je disais tantôt, il a jamais été introduit à de la malbouffe, du sucre raffiné. Donc, il a jamais été intéressé. Puis, elle dit, mon premier, s'il était en contact, si je lui en donnais, il mangerait peut-être. Mais, elle dit, on n'est pas aussi rigide, mais elle dit, c'est comme s'ils le demandent pas, ils veulent pas en manger. Puis le plus vieux, il comprend maintenant ce que la nourriture fait à son corps, puis que ça le fait sentir mal s'il mange des cochonneries. Il sait que son intestin est beaucoup mieux. Il sait qu'avant, il était toujours malade, il était toujours constipé, puis qu'il avait de la diarrhée quand il était bébé. Il avait de la diarrhée beaucoup, sa mère me disait. Après ça, il y a eu beaucoup de constipation, des problèmes gastro-intestinaux. Donc, elle dit, tout ça, c'est des préoccupations du passé. Là, je suis plus préoccupée comme j'étais avant, puis tu sais, c'est ça, c'est comme ça que ça s'est passé. Puis elle dit, elle regrette pas, tu sais. Elle dit, elle regrette maintenant de ne pas avoir pris plus d'images et vidéos, par exemple, pour vraiment montrer toute l'évolution puis les progrès qu'elle a fait pour encourager les familles, pour que les familles ne se découragent pas, parce que c'est un processus, une journey. Puis, elle espère que les familles se sentent pas abattues par la situation ou pris au piège, ou qu'ils se disent, ah, ben, je me rentrerai jamais là avec mon enfant. Elle veut que les gens soient encouragés puis qu'ils comprennent que elle et son fils sont partis de quelque, tu sais, il est parti de quelque part, là. Il y avait un début à tout ça, puis ça fait plus que 10 ans, puis sont encore, tu sais, dans un, il est là, mais tu sais, ça va, c'est comme une rémission, dans le fond, là. Fait que, le processus de guérison est très long. Puis, elle me disait que qu'est-ce qu'elle poste sur Instagram, elle a des fois des pushbacks, des gens qui disent « Ben là, c'est ben trop, moi, je peux pas cuisiner ça. » Puis, son message, c'est qu'elle n'a pas commencé pantoute là. Elle savait même pas cuisiner. Donc, elle a vraiment appris à cuisiner dans les 10 dernières années. Ça s'est compris aussi. Tu sais, elle avait appris jeune, là, mais tu sais, ça faisait longtemps. Puis là, elle a appris aussi à cuisiner le sans gluten, le produit laitier pour que ça goûte bon, pour que ça goûte le carton. Elle a appris beaucoup de ses enfants aussi. Elle dit qu'au début, son fils se sentait pas bien à l'école de voir tous les autres enfants qui mangeaient plein d'affaires que lui pouvait pas manger. Fait que là, c'est là qu'elle s'est dit, bon, ben, on va créer des lunchs que toi, tu vas aimer. Fait qu'elle a acheté comme des boîtes en acier inoxydable, des boîtes à lunch, puis elle a commencé à faire mettre ça cute, puis elle a dit, elle m'a dit, justement, acier inoxydable, parce qu'on essaie de garder la charge toxique basse, donc on veut pas du plastique. Donc, elle a commencé à faire des lunchs cute, avec des aliments qu'elle aimait, en faisant une belle présentation, puis ça le rendait heureux. Puis, elle fait un bémol aussi, elle dit qu'elle est consciente là, que dans la communauté autiste, c'est difficile souvent de nourrir son enfant avec les rigidités et tout, le picky eating, mais qu'en travaillant, on y arrive. Donc, puis à travers tout ça, ben finalement, c'est les autres enfants qui voulaient manger ce que lui mangeait. Puis les autres parents ont commencé à lui demander ce qu'elle mettait dans les lunchs de ses garçons. De son garçon, fait qu'à mesure que ses papilles s'habituaient aussi, son garçon commençait à avoir plus de variété dans ses lunchs. Puis quand il y avait des fêtes à l'école, des parties, des activités spéciales, parce qu'on voit beaucoup ça dans les écoles, hein, des activités de nourriture spéciale, mais c'est pas toujours des belles nourritures, de la nourriture santé. Fait qu'elle envoyait ses propres collations, des gâteries plus clean qu'elle disait pour lui, puis il était content. Donc, c'est ça qu'elle fait maintenant, puis c'est ça qu'elle montre sur les réseaux sociaux, puis comme elle dit, c'est des années de pratique. Puis là, après ça, j'ai demandé pourquoi elle avait parti son compte Instagram. Pourquoi elle avait parti son compte Instagram, puis qu'elle a pensé aider d'autres familles. Donc, elle dit en 2019, elle s'est demandé à travers tout ça comment elle pouvait donner au suivant. Elle voyait les chiffres, les statistiques monter de façon fulgurante. Puis en plus, elle a toujours pensé au début que son fils c'était un cas rare. Puis que c'était pas habituel. Puis finalement, pas du tout. Là, la situation, elle rempirait. Là, les statistiques démontraient que ben il y en a de plus en plus. Puis là, elle s'est dit, il faut que j'aide les parents à comprendre, qu'il faut se mobiliser, faut que tu te mettes en mouvement pour changer les choses. Donc, c'est là qu'elle est partie son compte Instagram, son site web qui s'appelle The Nutritional Spectrum. Elle a commencé son site web dans l'intention de bloguer au début, puis là, elle s'est trouvée sur les médias sociaux, puis là, finalement, elle a ouvert un compte Instagram, un compte Facebook, puis là, elle a été introduite au monde de la censure. Son compte se faisait mettre sur pause, se faisait bloquer, parce que, qu'est-ce qu'elle disait? Ça dérangeait, parce qu'elle disait que c'était possible de changer les choses avec l'alimentation, puis tu sais, comme je dis, ça fait quelques années de ça, c'est 2019, puis son premier compte a été fermé, il a été bloqué pendant un bout, puis elle a dû enlever certaines publications pour le faire ouvrir. Puis là, elle s'est dit, ben je vais pas faire tout ce travail-là pour rien, là. Fait que pendant ce temps-là, elle bloguait. Puis, elle a construit une liste de courriels, elle envoie des courriels, des infolettes, puis elle sait que son compte est toujours à risque, hein, parce que faut penser aussi que une personne qui est guérie, qui est healed, ou qui a changé sa situation, c'est un... Tu sais, en anglais, ils disent a patient heal. Je me rappelle plus. C'est un patient non payant, finalement. Fait que les big pharma, les big food sont assez puissants, puis eux autres, ils veulent pas. Malheureusement, c'est ça. C'est comme la censure, parce qu'ils veulent pas que les gens sachent qu'il y a des possibilités. Donc, elle continue d'écrire son blog, donne beaucoup d'outils aux parents pour qu'ils puissent commencer à faire des petits pas, des petites actions. Elle encourage beaucoup les parents à lire des livres. Puis, par exemple, tout ce qu'elle entend autour de elle, c'est que le plus gros défi, c'est vraiment autour de la nourriture, hein, ce qui est disponible en épicerie, la disponibilité alimentaire, des fois, c'est plus difficile. Il y en a qui ont de la difficulté à cuisiner, ils savent pas quoi se cuisiner, comment le cuisiner. Fait qu'elle pense qu'il faut commencer par la base, comprendre les impacts aussi de tout ce qui est les additifs alimentaires, les colorants, trouver les meilleures alternatives pour commencer. Juste commencer à switcher, là, à changer, faire ces changements-là le plus rapidement possible. C'est ce qu'elle conseille. Elle dit, juste commencer par ça, ça peut aider beaucoup de familles. Donc, elle crée des outils, elle a un e-book avec des recettes. Je pense qu'elle a un lunch guide, un guide de lunch. Puis là, elle a un e-book avec des recettes qui va sortir bientôt, s'il n'est pas déjà sorti. Donc, c'est ça. Elle veut vraiment donner de l'espoir aux parents qui sachent que c'est pas du jour au lendemain non plus, là, que c'est vraiment un long processus, puis de pas rusher, puis de célébrer les victoires. Donc, vous pouvez la trouver sur Instagram. Comme elle dit, elle veut pas trop mettre d'efforts là. Elle fait quand même des publications parce qu'elle veut pas se faire fermer son compte. Elle veut pas travailler pour rien. Fait que elle met toutes ces choses aussi sur son site internet et elle blogue ici, blogue là aussi. Puis finalement, comme à tous mes invités, je lui ai demandé quel est le premier petit pas que les parents qui reçoivent un diagnostic de TSA ou qui sont en processus de recevoir un diagnostic devraient faire. Puis sa réponse, c'est que personne ne devrait sous-estimer le pouvoir de la nourriture. Donc, de vraiment commencer là. Qu'il y ait un diagnostic ou pas, parce que c'est le premier pas le plus simple, parce que c'est là que tu as le contrôle, surtout quand ils sont petits, c'est toi qui contrôles qu'est-ce qu'ils mangent. Donc, comme elle dit, commence peu importe, commence à évaluer ce qui pourrait contribuer aussi à ces symptômes dans ton environnement, regarder, observer, puis commence par une chose, comme elle dit, tu peux commencer probablement genre par le déjeuner. Qu'est-ce que ton enfant mange pour déjeuner? Puis travaille là-dessus. Tu sais, commence par un repas, commence par ça. Tu peux rester des semaines à travailler sur les déjeuners, là. Mais comme elle dit, la plupart des enfants mangent des céréales pour déjeuner. Puis évidemment, elle dit, moi, je juge pas personne là-dessus parce que moi, c'est ça que je faisais avant de le savoir. Elle veut pas non plus personne se culpabilise. Donc, c'est ça. Elle dit, commencez par juste ce petit pas-là. Observe les changements. Écris ce que tu lui donnes à manger et note dans un journal ce que tu observes par rapport aux changements. Alors, on a terminé notre conversation là. J'espère que tu as apprécié le récit. Je ne sais pas si tu vas avoir beaucoup d'écoute pour l'épisode en français. Je sais certains parlent en anglais, mais Darylin a un bon accent du sud aussi. Parfois, elle est plus compliquée à comprendre. Donc, je vais mettre dans les show notes où est-ce que tu peux la trouver. Puis, je te dis que, comme d'habitude, j'ai remis mon épisode avec chaque petit pas compte. Bonne journée!
Merci d'avoir écouté l'épisode. Si t'as aimé ça, n'hésite pas à aller mettre des étoiles sur ta plateforme d'écoute et me laisser un commentaire. C'est super apprécié parce que c'est ça qui va permettre à plus de mamans de connaître le podcast. Tu peux aussi me retrouver sur Petit Pas Santé sur Instagram ou Facebook. Je te souhaite une bonne semaine, puis n'oublie pas que le but, c'est pas d'être parfaite, mais bien de faire de son mieux. Et peu importe où t'es rendu, dis-toi que chaque petit pas compte.